une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, c'est une édition spéciale d'une semaine d'actualité que nous allons vous proposer aujourd'hui car nous sommes à Lyon dans le cadre du festival Mode d'emploi, un festival des idées, festival qui se déroule dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Il est organisé par la Villa Gilet, notamment avec les subsistances. Nous serons aussi entre Saône et Rhône demain pour le magazine Idées. Nous sommes à Sciences Po Lyon en public. Édition spéciale car tout en vous offrant un regard sur l'actualité de ces derniers jours, nous allons vous proposer une réflexion sur l'information aujourd'hui, information qui était au cœur d'une journée de débat à Sciences Po Lyon justement jeudi. Notre invité est lui-même journaliste mais il est aussi philosophe, éditorialiste, écrivain, il est espagnol, catalan, il s'appelle Josep Ramoneda. Bonjour Josep Ramoneda.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Donc vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'Université Autonome de Barcelone, vous avez dirigé le Centre de la Culture Contemporaine à Barcelone également, vous dirigez une revue de philosophie, et il faut en dire un mot.
Oui, c'est une revue qui s'appelle la Maleta de Portbou, la valise de Portbou. Portbou, c'est une ville de la frontière entre la France et l'Espagne. En 1940, Walter Benjamin, qui échappait à la persécution du nazisme, il est croisé la frontière dans une situation physique épouvantable. Il s'est logé dans un petit hôtel et il s'est suicidé. Il a laissé là une valise mythique dans laquelle on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y avait. On parle d'un projet de revue sous le nom Angelus Novus, on parle d'un esquisse d'un livre, mais on ne sait jamais. Walter Benjamin est enterré là, il y a un mémorial magnifique créé par Caravan, par Danny Caravan, et voilà, c'est un hommage à Benjamin. Le nom de la publication, que c'est une publication en sciences humaines, philosophie et économie.
Alors vous êtes auteur de livres notamment, l'un sur la gauche et l'autre ce qui s'appelle « Contre l'indifférence ».
Oui. Oui. Oui, ça c'est un peu la critique de ce qui a été les années, à mon avis, terribles, 90 et la première décade du XXe siècle, que c'était des années dans lesquelles on a vécu dans la fantaisie qu'il n'y avait pas de limite, que tout était possible, que la grande majorité de la société était une énorme classe moyenne avec les mêmes fantaisies, idées, désirs de consommation, etc. La seule différence était que il y avait quelqu'un qui seulement pouvait acheter à Zara et autre qui arrivait à Vuitton, non? Mais et cette fantaisie nous a conduit à une époque d'une grande indifférence politique à la chose publique, à un certain totalitarisme à l'indifférence, une évolution, un affaiblissement spirituel de la démocratie. Et la crise, elle a cassé cette période et a ouvert des expectatives nouvelles.
Ah, vous êtes un homme qui écrivait dans El País?
Oui.
Et qui parle à la radio aussi?
Oui, exactement. J'ai une petite chronique tous les soirs à la Cadena Ser, une heure un peu bizarre pour les Européens, à minuit moins 5.
Que c'est, ah oui, en effet.
Oui, c'est la fin du principal journal d'information de la radio espagnole et commence, 5 minutes plus tard, commence le principal programme sportif de la radio espagnole qui commence à minuit et finit à 1h30. C'est pas mal.
C'est curieux, ces Espagnols.
Oui.
Même si nous sommes à Lyon, nous allons faire comme à Paris, Joseph, c'est-à-dire voyager en Afrique tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission. Mais sans tarder, partons pour Vienne, la capitale de l'Autriche, pour commencer, afin de revenir sur l'échec des négociations sur le nucléaire avec l'Iran. Vienne lundi soir, Tiavaj Gazi.
Le président Hassan Rouhani est monté personnellement au créneau pour défendre la poursuite des négociations nucléaires. Malgré l'absence d'accord à Vienne, nous poursuivons avec sérieux les négociations pour parvenir à un accord global, a déclaré le président iranien dans une intervention à la télévision. Mais il a également ajouté que l'Iran ne renoncera pas à ses droits en matière nucléaire et poursuivra ses activités d'enrichissement d'uranium. La taille du programme d'enrichissement d'uranium est précisément l'un des sujets de divergence entre l'Iran et les grandes puissances qui ont empêché un accord à Vienne. L'Iran veut augmenter la taille de son programme alors que les pays occidentaux, les États-Unis en tête, demandent une réduction de ce programme. En tout cas, le président iranien a besoin de faire avancer les négociations assez rapidement pour éviter les critiques de ses adversaires conservateurs. Ces derniers reprochent en effet au gouvernement d'avoir fait trop de concessions depuis un an sans avoir obtenu une levée totale des sanctions internationales. Si dans les prochains mois, il n'y a pas de résultats concrets, le président Rouhani sera encore plus affaibli.
Une semaine d'actualité au festival Mode d'emploi à Lyon. Écoutez aussi sur le site de la radio www.rfi.fr.
7 jours dans le monde.
Avant de retrouver Joseph Ramoneda, il nous faut reparler aussi de l'élection présidentielle dimanche en Tunisie. Une vraie démocratie désormais. Le chef du parti anti-islamiste tunisien Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, est arrivé en tête devant le président sortant, Moncef Marzouki. Il y aura donc un second tour et deux candidats. Envoyé spécial Marie-Pierre Olfan, lundi.
Les candidats n'ont pas attendu les résultats pour se préparer au second tour et tenter de marquer des points. Dès dimanche soir, Moncef Marzouki a demandé à tous les démocrates de le soutenir, car rappelle-t-il à ceux qui l'auraient oublié, j'appartiens à cette famille politique. Chez Beji Caïd Essebsi, on compte sur le ralliement de nouveaux partis et de personnalités indépendantes, sans les nommer. Avec cet argument, nous incarnons le renouveau de la Tunisie, nous sommes l'avenir. Chacun cherche à parfaire son image sans perdre de temps, quitte à s'attaquer déjà à l'autre camp. Beji Caïd Essebsi a ainsi accusé hier son adversaire d'avoir bénéficié des voix des islamistes et des salafistes djihadistes, je cite. Moncef Marzouki, c'est l'homme qui a laissé la Tunisie dans un état lamentable. Il appartient donc au passé, ajoute sans détour Beji Caïd Essebsi. Moncef Marzouki demande à son concurrent et à ses partisans de ne pas céder aux insultes et de se positionner par rapport à un programme électoral. Il prévient aussi qu'il y a danger pour la démocratie si Beji Caïd Essebsi l'emporte après avoir déjà gagné aux législatives. Toutes ces déclarations, tenues quelques heures à peine après le premier tour, promettent une bataille féroce entre les deux hommes.
L'actualité, c'est aussi le sommet de la francophonie à Dakar ce week-end. On vous en parle dans nos journaux et nos émissions spéciales. Suite d'une semaine d'actualité, retour à Sciences Po à Lyon dans le cadre du festival Mode d'emploi. La francophonie, ça vous parle, Joseph Ramoneda?
Oui, la Catalogne est un pays assez francophone. Moi, je regrette beaucoup que dans le passé, ça fait pas longtemps, ça fait une vingtaine d'années, on pouvait organiser un colloque. Il y avait le principe que toutes les personnes de langue latine, ils parlaient avec sa langue.
Et ça c'était posait naturel.
Un problème, il n'y avait pas de traduction, tout le monde comprenait. Maintenant, si on parle en français ou en italien, on voit que les gens prennent plus d'écouteurs que si on parle en anglais. Non? Oui. Ça, c'est un peu triste. Non? Dans un moment donné, le premier président socialiste de la Catalogne a proposé que la Catalogne entre dans la francophonie. Je crois que c'était une bonne idée, bénéficier pour les deux langues, le français et le catalan. Mais il y a eu des possibilités, le gouvernement espagnol a réactionné pas bien, et voilà. Et finalement, ça n'a pas été. Mais je crois que c'était une bonne idée.
Alors, il faut revenir rapidement sur deux sujets. L'Iran vous intéresse, ces négociations qui n'en finissent pas?
Oui, les conflits du Moyen-Orient, on peut le dire de plusieurs façons, mais c'est en fait, c'est une guerre civile entre chiites et sunnites. Alors, les Iraniens, ils ont remplit un rôle très fort. C'est normal que s'ils essayent de réparer les énormes dégâts faits par la guerre d'Irak, que les Américains ils essayent de récupérer les Iraniens comme puissance régionale et qui aide à équilibrer les choses.
Et la Tunisie, pas très loin de la Catalogne, non, de l'autre côté de la Méditerranée.
La Tunisie prouve que une révolution a beaucoup plus de possibilités de démarrer dans une bonne direction s'il y avait auparavant une culture laïque, une société civile forte et un État digne de ses noms.
Voilà. L'héritage du Bourguiba.
Voilà. Je crois que ce point de départ ça a permis à la Tunisie aller plus loin que les restes des pays qui ont vécu les révolutions du printemps.
Alors, revenons sur votre position, Joseph Ramoneda, qui était très originale. Vous êtes à la fois journaliste et philosophe. Mmh. C'est-à-dire, dedans, dans l'événement, et avec le recul aussi, oui, du philosophe.
Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Ça a été comme ça. J'ai commencé à écrire aux journaux très jeune. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à écrire dans le journal de Barcelone. Et j'ai étudié la philosophie. Je me suis intéressé à la philosophie. J'étais des années en France. J'étais très proche de Louis Althusser à l'époque. Et voilà. J'ai fait ce double parcours que c'est un peu difficile à justifier. Et j'utilise souvent l'expression de dire les seuls points communs que la philosophie et le journalisme, hein, les philosophes et les journalistes, c'est que l'UD, ils sont des spécialistes en généralité.
Ouais. Et chaque jour, donc, vous parlez à la radio, de quoi vous parlez? De l'actualité?
J'ai fait une sorte de mélange d'actualité et réflexion, quelquefois un peu décalé, volontairement décalé.
C'est votre style?
Oui, voilà.
Une semaine d'actualité.
Et quittons Lyon pour Ferguson dans le Missouri. La décision de la justice locale d'un grand jury populaire de ne pas inculper le policier qui a tué un jeune noir de 18 ans en août dernier, mort qui avait déclenché des émeutes. Reportage lundi de notre correspondante aux États-Unis, Anne-Marie Capomaccio.
C'est dans le silence que les manifestants ont écouté sur leur téléphone portable le procureur McCulloch annoncer que le policier qui a tué Mike Brown ne serait pas poursuivi. Quelques secondes de stupéfaction, c'est comme si personne ne parvenait à croire à cette décision, alors que tout indiquait, et notamment des fuites pendant les délibérations, que Darren Wilson ne serait pas inculpé. Stupéfaction puis colère, certains manifestants sont en larmes.
Quand un jeune garçon noir sans armes est tué par un officier de police, il n'y a pas d'inculpation. Comment pouvons-nous faire ça dans ce pays? Comment pouvons-nous faire ça?
Ferguson ne parvient pas à comprendre comment les 12 jurés ont pris leur décision. Après 3 mois de travail, après avoir entendu des dizaines de témoins des faits qui ont mené à la mort de Mike Brown le 9 août, des témoins qui, d'après le procureur, se sont contredits. La colère éclate, des coups de feu, les hélicoptères patrouillent dans le ciel, des vitrines ont été brisées, des magasins incendiés, Ferguson est en colère.
Suite d'une semaine d'actualité en Israël, cette fois, et un projet de loi approuvé par le Premier ministre de considérer officiellement dans les textes le pays comme État-nation du peuple juif. Explication de notre correspondante Muriel Paradon.
Le concept d'État juif est déjà mentionné dans plusieurs textes en Israël. Pourquoi inscrire cette notion d'État national du peuple juif dans les lois fondamentales qui font office de constitution? Beaucoup affirment que c'est inutile et surtout dangereux dans le contexte actuel de tension, car la minorité arabe israélienne pourrait se sentir encore plus discriminée. Mais Benjamin Netanyahou persiste. Le Premier ministre ressort ce texte justement à un moment de tension, comme il l'avait déjà fait en avril dernier, alors que les négociations avec les Palestiniens était en train d'échouer. C'est une façon pour lui de donner des gages à son aile la plus à droite, qui menace régulièrement de faire exploser la coalition. Mais cette fois, ce sont les plus modérés au sein du gouvernement qui protestent et qui pourraient claquer la porte. En cas d'élection anticipée, Netanyahou se place, selon les experts, il aurait droitisé son discours ces dernières semaines pour faire face à de potentiels candidats extrémistes.
Et on vous parle dans nos journaux ce matin de la décision du Parlement français concernant la reconnaissance d'un État palestinien. Suite d'une semaine d'actualité et retour à Sciences Po à Lyon dans le cadre du festival Mode d'emploi avec notre invité Joseph Ramoneda. Cette colère qui monte aux États-Unis vous suscite chez vous un commentaire?
Oui.
Et pas simplement à Ferguson dans le Missouri, il y a eu d'autres manifestations dans d'autres villes des États-Unis, dont New York et Atlanta par exemple.
Oui, certainement. D'un côté, c'est vraiment impressionnant comme malgré tout, malgré les énorme progrès depuis les marches des droits civils des années 50 et 60. Malgré ça, la blessure raciale est encore terrible. Non, d'autre côté, c'est, évident, c'est évidemment étonnant la, disons, la facilité avec laquelle la police tire en États-Unis.
Il y a eu un autre cas ces derniers jours aussi.
Exactement.
Hein.
Oui. Probablement, ça tient à voir avec la culture des armes dans ces pays, mais c'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile à comprendre. Non, et aussi, c'est difficile à comprendre, malgré tout, l'appui qu'ils ont dans quelques secteurs de la population qui ont approuvé la décision du jury de ne pas l'inculper. Non, et au-dessous de ça, la position toujours compliquée d'Obama dans ce genre de problèmes et dans ces problèmes en général. Moi, j'étais surpris de la gestion d'Obama comme président. J'ai quoi qu'une fois de plus, c'est démontré que le racisme n'affecte pas seulement aux racistes, sinon aux victimes, à la mentalité des victimes. Et que Obama, il se sent dans l'obligation, d'une certaine façon, de se faire pardonner les faits d'avoir été le premier président noir. Et soit a marqué une présidence avec une certaine manque de courage.
D'ailleurs, il n'a pas voulu s'engager suffisamment, selon vous,
sur différents sujets, l'immigration, etc. Ouais. Il est arrivé très tard à répondre avec une certaine contundance à l'opposition systématique républicaine. Il est arrivé quand il était déjà presque à la fin de son mandat. Et moi, je trouve qu'une explication psychologique, c'est ça. C'est une probablement idée inconsciente qu'il devait d'une certaine façon se faire pardonner qu'un nègre arrive à la présidence des États-Unis.
La décision de ce projet de loi israélien de créer un État, de considérer l'Israël comme l'État-nation du peuple juif dans un climat explosif que l'on connaît.
Ça, je trouve que c'est. Israël, il avait tenu toujours une certaine. Les institutions démocratiques israéliennes, ils ont fonctionné, ils existent d'une façon correcte, il y a une liberté de presse, etc. Que d'un coup. On prend une décision qui signifie, disons, considérer de loi, pas seulement de fait, que d'une certaine façon ils étaient déjà des citoyens de deuxième catégorie, les citoyens arabes, les citoyens palestiniens, ça c'est quand même terrible, non? Et moi j'espère que l'essence de la démocratie qui existe encore en Israël va éviter que ça arrive à se consolider.
On va terminer cette première partie d'une semaine d'actualité avec une question qui vous concerne directement, Josep Ramoneda. L'indépendance de la Catalogne, c'est pour quand?
Oui, elle est par quand? Oh, je sais pas. Non, c'est un phénomène curieux, intéressant, complexe. Je crois que
populaire.
Populaire, il est assez populaire. C'est aussi le point de départ, c'est un mouvement social. Je crois que c'est toutes ces choses ne se comprennent pas sans avoir un élément clé dans le contexte, que c'est l'épuisement du régime politique espagnol né en 78. C'était un régime politique.
Après le franquisme.
Le franquisme. C'est un régime politique qui a fait une fonction très importante. Il a réussi une chose qu'en Espagne il semblait impossible, que c'est consolider une démocratie, la faire durer 30 ans. Mais quand même, il est épuisé parce qu'il était un régime très fermé. Précisément pour ça, pour cette obsession de stabilité, on a créé autour du Parti Socialiste et du Parti Populaire un régime
deux partis
très forts, très rigides, très hiérarchisés. Et il y a un moment où les gens ils ont la sensation que ça c'est une sorte de casta, comme on dit, qui est, disons, absolument inabordable. Non, et ça provoquait beaucoup mouvements sociaux de différents signes. Il y a aussi les mouvements sociaux de caractère indépendantiste qui a commencé d'une certaine façon comme une réaction contre l'establishment, même contre l'establishment nationaliste catalan.
Ça veut dire
en
que...
ce moment, c'est un mouvement d'une importance qui est presque majoritaire en Catalogne.
C'est-à-dire que l'Espagne a changé de roi, il faut qu'elle change de système maintenant, politique.
Chaque fois que l'Espagne a changé de roi, il y a eu des changements profonds dans la société. Je ne sais pas si c'est une prémonition ou non.
Josep Ramoneda, nous allons marquer une pause pour écouter quelques nouvelles du monde, retourner à Paris. On se retrouve dans 3 minutes ici à Sciences Po à Lyon. A tout de suite. Merci pour ces informations. Retour à Lyon pour la suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité.
Pierre-Edouard Deldic.
Nous sommes en effet à Sciences Po, à Lyon, dans le cadre du festival Mode d'emploi, festival des idées formidables, proposé par la Villa Gilet et les Subsistances, édition spéciale, car pour une fois, nous ne collons pas strictement à 7 jours d'actualité, quoique, mais nous prenons du champ avec notre invité, Josep Ramoneda, journaliste, philosophe, écrivain, qui participait jeudi à Lyon, ici même, à une table ronde intitulée « Réagir à chaud, le temps réel ». Nous allons revenir à la question du traitement de l'information. Mais comme d'habitude, commençons cette seconde partie d'une semaine d'actualité avec quelques mots sur l'actualité française. Quelques mots seulement, après on en parlera entre nous, Joseph, avec notamment le retour de François Hollande, du président François Hollande, sur le site de Florange, site, comme on sait, sinistré, de la sidérurgie Lorraine. Reportage d'Anissa El-Jabri.
Ceux-là, le président ne les aura pas vus. Une cinquantaine de militants CGT en colère à l'entrée du siège social d'ArcelorMittal.
J'ai cru savoir qu'il avait 13% d'opinion favorable dans les sondages. Heureusement qu'ils ne sont pas venus faire le sondage sur les lignes de production de l'établissement de Florange parce qu'on serait largement en dessous de ça.
Le président est en fait à l'intérieur face à quelques salariés reclassés depuis la fermeture des hauts fourneaux. Des salariés à l'enthousiasme très mesuré.
On n'est jamais rassuré dans le contexte où on vit. Parce qu'aujourd'hui, on sait que tout va très vite. Après, on voit qu'on n'est pas oublié. Effectivement, il y a des engagements tenus puisqu'on voit arriver des investissements. Le monde politique continue de s'intéresser à Florange.
De l'enthousiasme et de la confiance, François Hollande en est, lui, à revendre.
Florange, c'est l'exemple de ce qu'a été une crise, de ce qu'a été un rebond, d'une parole qui a été prononcée et d'une parole qui a été respectée. Et l'exemple de Florange, il vaut aussi pour la France. Après une période de très grandes difficultés, lorsqu'on met les moyens, lorsqu'on met la volonté, lorsqu'on met un certain nombre d'instruments au service de la réussite, elle est possible.
Volontariste pour le bassin d'emploi de Florange, optimiste pour son propre avenir. François Hollande reviendra tous les ans jusqu'à la fin du quinquennat et confie en partant dans un sourire, peut-être aussi après 2017.
Suite d'une semaine d'actualité de Florange à Lyon, Josep Ramoneda. Alors là, on est dans le cœur d'un sujet qui vous intéresse, que vous analysez sur la gauche, l'absence de la gauche. Je rappelle que c'est le thème de votre dernier livre publié en 2012 sur la gauche. Cette visite de François Hollande à Florange vous inspire un commentaire.
Oui, je me souviens que François Hollande a fait sa campagne électorale sur une idée qui était une idée très puissante à cette époque et à mon avis très nécessaire, que c'est le concept de justice. Et il paraît que depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, l'idée de justice est évanouie. Non ça fait partie de la crise générale de la social-démocratie. Le problème de la gauche, de la social-démocratie en particulier, c'est qu'elle a joué un rôle très important et très utile dans le capitalisme industriel, dans lequel il faisait une fonction médiatrice qui a été très important et a donné les bons moments des Trente Glorieuses. Oui. Non mais après, elle n'a pas trouvé sa place dans les passages du capitalisme industriel au capitalisme financier. Mmh. Elle n'a pas trouvé une position, un argumentaire, une alternative. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mimétisé la droite. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trouve dans une situation de bois de rechange quand la droite échoue. Et avec ça, inévitablement, son affaiblissement, c'est...
Et est-ce qu'avec votre regard d'espagnol, de catalan, pardon, Josep Ramoneda, est-ce qu'il vous semble qu'il y a une spécificité de la gauche française?
Je ne suis pas sûr. L'explicité de la gauche française pourrait être qu'elle a une tradition plus idéologique que d'autres gauches européennes, non? Mais à mon avis, le problème de la social-démocratie est commun à toutes les social-démocraties européennes, non? Et en fait, c'est la troisième voie de Tony Blair, celle qui a été la première, qui a donné les pas dans la direction, à mon avis, dans la direction erronée. Et disons a provoqué la chute en chaîne de tous les autres social-démocraties.
Manuel Valls, c'est le Tony Blair français?
Manuel Valls, je comprends exactement pas qu'est-ce qu'il veut apporter, parce qu'il annonce la mort de la gauche si la gauche ne change pas. mais je crois que la gauche est déjà morte si elle change vers la droite. Parce que pour changer vers la droite, il a la droite.
Ça s'appelle un cercle vicieux. Là.
Voilà. Ça, c'est... Oui, le problème, c'est ça. Est-ce que vraiment il n'y a pas d'alternative? Alors, si on ne peut pas créer une alternative, la démocratie a les jours comptés.
Alors, disons un mot de la gauche espagnole, cette fois, Josep, est-ce qu'elle est dans un état meilleur?
Non, les partis...
Dans un climat d'austérité,
les partis socialistes s'est effondré d'une façon spectaculaire les jours de mai 2010, dans lesquels Zapatero a accepté toutes les exigences qui lui venaient de l'Allemagne, de l'Union européenne, et a changé radicalement de politique en 24 heures. Les sondages le disent clairement, elle était dans un niveau... Elle tenait, et d'un coup, à partir du 10 mai, tombe jusqu'à la chute absolue. Et en ce moment, les partis socialistes ne s'est pas récupéré, il n'a pas aucun signe de récupération, malgré que la droite est dans la position la plus affaiblie de son histoire récente. Et c'est Podemos qui prend le relais. C'est ça la signalité.
On y revient. Alors, puisqu'on parle de la droite, parlons de la droite française. Il y a aujourd'hui, samedi, une élection à l'UMP. Le retour de Sarkozy vous impressionne ou
ouais, il y a des choses qui, il y a des choses qui vont au-delà de ma capacité de compréhension. J'aurais jamais imaginé que Sarkozy puisse retourner.
Il semble avoir du mal, plus de mal que prévu.
Il paraît qu'il va retourner, il va gagner. Pourquoi? Pour continuer à promettre chaque matin une révolution différente et n'en accomplir jamais aucune. C'est bizarre.
Et là, il y a une guerre qui s'annonce entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé pour la présidentielle.
Oui.
Ça vous semble intéressant?
Voilà, on est vraiment la politique européenne, c'est une situation difficile quand on est dans des choix dans lesquels toujours l'option du mal mineur, c'était pas extraordinaire, non?
Alors une autre question, Joseph, entre l'histoire et l'actualité, on a commémoré cette semaine les 40 ans de la loi Veil sur l'avortement. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, quelques mois, en Espagne, certains voulaient remettre en cause l'avortement.
Oui, et ça a été un grand succès de la société espagnole qui, avec ses mobilisations, a obligé au gouvernement de la droite à retirer cette proposition, non?
Mais le fait qu'on l'ait proposé est déjà symptomatique.
Ça il faut l'encadrer dans un contexte, non? Rajoy, il est arrivé au pouvoir avec un programme vraiment de restaurationnisme conservateur, mais radical. Et heureusement, par la pression de la population, il a presque réussi à approuver aucune des promesses qu'il avait fait. Il a été obligé de retirer la loi de l'avortement parce que la mobilisation a été si grande qu'il est arrivé au même électorat de la droite. Il y a une grande partie de l'électorat de la droite qui s'est manifestée contre. Il a dû retirer une loi de sécurité citoyenne qui était très radicale, mais très radicale. Et il a dit s'oublier d'autres projets qui avaient, disons, plus ou moins le seul projet, disons, réactionnaire qui a mis en marche, c'était dans le domaine de l'éducation, un projet qui protège l'éducation catholique, qui protège un certain retour aux valeurs conservateurs, non? Mais le reste, il a été obligé de tout retirer, et ça, c'est un espoir dans la société espagnole en ce moment.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons, Joseph, en Afrique, comme nous le faisons chaque semaine à ce moment de l'émission. Et nous allons au Burkina Faso, qui a un nouveau gouvernement de transition. Et un de ses ministres, Adama Sagnon, a déjà été mis en cause. Son nom est lié à l'enquête sur la mort d'un journaliste, le journaliste Norbert Zongo, Laurent Corro, mardi.
C'est la première polémique que connaît le nouveau régime burkinabé. Elle porte sur un nom, celui d'Adama Sagnon, le ministre de la Culture qui vient d'être désigné. Un ami de longue date du lieutenant-colonel Isaac Zida, le premier ministre, mais aussi et surtout un ancien procureur dans l'affaire du journaliste assassiné Norbert Zongo. C'est quand Adama Sagnon était en fonction, en 2006, que la justice avait déclaré le non-lieu. Hier, des comédiens, des chanteurs et des personnels du ministère de la Culture sont venus manifester pour refuser sa désignation au poste de ministre.
Il faut être probe. Adama Sagnon est trempé dans le dossier Norbert Zongo. Et pour cela, nous contestons sa nomination. Nous appelons à sa révocation pure et simple par Cafando.
Adama Sagnon, lui, se défend en disant qu'il n'est pas responsable de la décision de non-lieu qui avait été prise à l'époque.
Le dossier Norbert Zongo a été déclenché sous un autre procureur, M. Yamego, à l'époque des faits. Ensuite, M. Traoré Malubali, moi j'avais été le troisième procureur. Et après moi, il y a eu trois autres procureurs. Je n'ai rien à me reprocher quant à ce dossier. Tous ceux qui connaissent les rouages du droit pénal savent que le procureur ne décide pas. Il ne prend que des réquisitions. Des réquisitions, c'est un avis. Ce n'est pas une décision.
L'ancien procureur rappelle d'ailleurs que les parties ont jusqu'à 2016 pour demander la réouverture du dossier si elles estiment que celui-ci doit être réouvert.
Et le nouveau ministre de la Culture, Adama Sagnon, ex-procureur sous le président déchu Blaise Compaoré, a finalement démissionné mardi sous la pression de la société civile qui lui reprochait son implication donc dans l'affaire du journaliste dont l'assassinat en 1998 avait embrasé le pays. Suite d'une semaine d'actualité, Ebola a disparu de la une des journaux, mais pas dans les points d'information de RFI. Nous allons en reparler avec vous, Joseph Ramoneda. Écoutez par exemple ce reportage de Binetta Diane, notre correspondante à Dakar, sur le corridor humanitaire mis en place pour l'acheminement des secours en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria par les Américains. Reportage mardi.
Sur le tarmac de l'aéroport, des soldats forment une file indienne pour embarquer dans un aéronef militaire. Ils sont suivis d'un chariot transportant du matériel et des médicaments. Depuis quelques semaines, l'armée américaine effectue ainsi deux rotations quotidiennes pour acheminer des ressources humaines et du matériel au Libéria afin de lutter contre l'épidémie à virus Ebola, comme l'explique le lieutenant-colonel Mike Burrow.
Nous en sommes à notre deuxième vol pour aujourd'hui. On est à notre rythme normal de deux vols par jour. Mais en plus des vols que nous opérons nous-mêmes, nous faisons de la prestation de service, des opérations de soutien. Il y a des aéronefs comme celui-ci, de type Hercule C-17, qui passent par ici pour prendre du carburant. Nous les assistons au sol.
Au sein de la base aérienne de Dakar, les militaires américains ont installé une zone intermédiaire sur un espace de 7 hectares. Il y a là 60 tentes pouvant héberger jusqu'à 300 militaires. Le général Frank Tate est le commandant en second de cette opération. Il assure que ces hommes ne devraient pas être en contact direct avec les malades affectés par le virus Ebola.
Notre rôle au Libéria consiste à installer des unités de traitement de la maladie, avant réception des malades. Nous devons aussi former le personnel soignant. Aucun des membres de notre personnel ne sera à aucun moment pendant son séjour au Libéria en contact avec des cas avérés ou suspects d'Ebola.
Depuis le 25 septembre, le corridor humanitaire établi à Dakar a réalisé une soixantaine de vols. Près de 600 personnes, essentiellement du personnel du Programme alimentaire mondial, ont pu transiter par ce corridor vers trois pays affectés par le virus Ebola.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages. Un clin d'œil à quelques auditeurs qui nous ont écrit à la page Une semaine d'actu de Facebook qui a franchi la barre des 3000 j'aime. Merci, continuez. Bonjour à Sarah qui nous écoute à Lyon via notre site ou sur son téléphone avec l'appli gratuite RFI. Bonjour à Ibrahima Issa en Guinée, à Elgin à Accra au Ghana. Bonjour à Djibril à Dakar, à Mayoun qui vit en Normandie, à Mamadou à Ouagadougou, à Soumana à Niamey au Niger et enfin à Gilles à Libreville.
Sept jours en Afrique.
Et je salue aussi Yaya qui habite, dit-il, depuis dans le, à côté des mines d'or de Loulou dans la région de Kaye au Mali. Vous avez vu, les Africains sont avec nous, Joseph. Norbert Zongo, donc je rappelle, c'est un journaliste burkinabé assassiné en 1998. Il avait fondé une publication, L'Indépendant. Il était auteur d'un roman aussi. Faut dire un mot sur la difficulté des journalistes à travailler en Afrique.
Oui, en Afrique.
Journalistes africains et journalistes français
et ailleurs
qui travaillent en Afrique.
En Afrique et ailleurs, évidemment. la difficulté à travailler dans des scénarios difficiles, ça n'a pas amélioré malgré les nouvelles technologies. Ouais. Et voilà, ça c'est un gros problème qu'on voit chaque jour. Non,
alors, on vient de parler d'Ebola. La philosophe Victoria Camps, jeudi, dans cette journée de réflexion organisée à Sciences Po Lyon dans le cadre du festival Mode d'emploi, rappelait que, en ce qui concerne Ebola, donc, les Occidentaux ont commencé à s'intéresser à ce virus que quand les Occidentaux eux-mêmes étaient en quelque sorte touchés.
Oui, évidemment. J'en parlais avec Pedro Alonso, un chercheur qui a travaillé toute sa vie en Afrique. En ce moment, il est responsable de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'éradication de la malarie, et qu'il a un centre de recherche très impressionnant au Mozambique. Et il me disait, c'est terrible, mais c'est comme ça. Seulement quand une maladie arrive au premier monde, on se commence à s'en occuper. Et d'une certaine façon, c'est dramatique, mais la seule chance de l'Ebola est qu'il continue à arriver au premier monde. Non, la proportion de maladies dans les pays développés et les pays en développement, c'est 10%, 90%. L'investissement sur les 10% des pays développés, c'est 90%. L'investissement sur les 90% des autres maladies, c'est 10%. Alors, ça, c'est vraiment une injustice mondiale dans lesquels on ne le voit pas, sauf quelques actions importantes, mais très isolées, on ne voit pas une activité systématique, non?
Alors, ce qui est frappant, Joseph, c'est que, bon, là, je vais faire un peu de publicité pour ma radio, RFI, c'est que Ebola a totalement disparu des médias français.
Oui, et il a commencé déjà à disparaître aussi des médias espagnols, dans la mesure où la personne qui était contaminée a sorti de l'hôpital, non? Une fois.
Alors qu'il faut continuer.
L'Européenne est sauvée, le problème est fini. Non, c'est vraiment tragique. Non, il me racontait, un responsable de Médecins Sans Frontières, qu'on n'est pas conscient des conditions dans lesquelles travaillent les peu de groupes qui continuent à travailler. Médecins Sans Frontières, par exemple, qui continuent à travailler là-bas. Et que la responsabilité du gouvernement occidental, c'est nul, disons. Ils sont en train d'abandonner. Depuis que l'événement a commencé à disparaître des journaux occidentaux, d'une façon vraiment épouvantable.
Alors, je dis, on a parlé ici de l'émotion dans l'information. Là, il y a eu une traduction de cette émotion sous forme de peur.
Il faut dire que nos sociétés, elles ont un niveau de bien-être assez réel vis-à-vis d'autres sociétés. Ils sont très hypochondriaques, ça c'est une évidence, non?
Bien sûr.
Et les paniques qu'une contamination de ce type provoque, c'est absolument déproportionné. Il y avait des gens qui disaient, je dois voyager à Madrid, tu crois que je peux y aller?
Est-ce que les compagnies aériennes doivent continuer à desservir des pays touchés par le virus?
Ça fait pas longtemps, la panique de la grippe jaune, non? La grippe A, qui a provoqué en Espagne, des dépenses énormes pour rien.
Ouais, hein. En France aussi.
Et évidemment, tout le monde savait que la grippe de cette année certainement tuera plus de personnes que l'Ebola en Espagne, c'est sûr. Mais par contre, les paniques qu'ils avaient provoquées, pourquoi? Parce que c'est une maladie qui vient d'un pays rare, lointain, obscur, non? Et ça, c'est un élément très important. C'est une maladie qui vient de pendant les mêmes jours. Pendant les mêmes jours qu'il y a cette femme qui finalement s'est sauvée dans un hôpital et qu'il y a un grand débat national
en Espagne,
à Sabadell, à côté de Barcelone, 10 personnes ont mort de Legionella, que c'est une infection qui existe mais pas très usuelle, plutôt. Personne n'a fait aucun événement de cette légionella. Et par contre, la légionella a provoqué 10 morts et l'autre, il a provoqué 2.
Et là, ça doit faire réfléchir le journaliste que vous êtes, José Ramoneda, c'est le poids de l'émotion dans l'information. On en a parlé dans Idée il y a quelques semaines avec un philosophe qui s'appelle Pierre Lecause, qui a écrit un livre sur la question. Les médias, et je pense notamment à la télévision, ça ne nous concerne pas. Vous êtes un homme de radio et d'écrit, moi, un homme de radio, donc on va pouvoir parler de la télévision. véhicule vraiment, enfin joue parfois sur cette émotion.
Oui, oui, malgré que la télé véhicule l'émotion, mais d'une façon particulière, parce que c'est un média, disons, plutôt froid, plutôt calme. Hein. La radio, c'est un média beaucoup plus chaud. Hein. Il y a un mythe,
si
je ne sais pas si on peut le prouver, mais il y a un mythe qui dit que tous les génocides du XXe siècle, ils ont été faits sur la pression de la radio. Non.
Et le cas, hélas, au Rwanda, par exemple.
Il y a même qui dit qu'avec la télévision, Hitler n'aurait été pas possible. C'est pas ça, c'est une chose facile à dire, mais difficile à prouver. Non. Mm. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est les émotions, c'est un composant important de la vie humaine. Ça, c'est, et ça ne doit pas nous surprendre que les
mais
émotions. Mais c'est vrai que dans cette logique qu'on pourrait appeler du capitalisme des émotions, le capitalisme de la consommation des émotions, la télévision a joué un rôle dans ce sens, dans les domaines de l'information, et que les émotions jouent fort. Ça, il n'y a pas aucun doute. On les voit tout le temps.
Alors, le festival organisait mode d'emploi une table ronde jeudi après-midi sur le thème réagir à chaud, le temps réel. Là aussi, c'est une autre question sensible pour les journalistes.
Oui, évidemment.
Comment traiter l'actualité à chaud?
On doit répondre très rapidement, non? Et surtout ce qui m'impressionne, non? C'est l'hystérisation de l'information. Qu'est-ce que je veux dire par l'hystérisation de l'information? Une information cache une autre notice en question de seconde. Non? Par exemple, nous sommes déjà contaminés pour cette hystérisation de l'information. Quand on ouvre une web d'un journal, en plus, on commence à voir déjà l'attitude compulsive d'ouvrir des web du journal chaque demi-heure ou chaque heure.
Regardez sur son téléphone, vous voulez dire.
Voilà. Mais en plus, si la web que tu as ouvert, ça fait un air, et tu viens d'ouvrir à nouveau, n'a pas de choses nouvelles, tu pars d'un autre côté, non?
Et la troisième fois,
tu trouveras pas des choses nouvelles, tu partiras plus. Dans cette hystérisation de l'information, à mon avis, c'est une chose très, très compliquée, très grave d'une certaine façon, non?
Accentuée par cette notion d'information.
Il y a un manque de hiérarchisation. Ouais. Il y a un manque de hiérarchisation. Il y a un manque d'ordination du valeur de chacune des choses, non? Souvent, on parle, il y a des mois dans lequel chaque jour est une journée historique. C'est pas possible. Ouais, s'il est chaque jour, alors il est plus historique. Il y a une emphatisation de l'information qui est très dangereuse. Et surtout, ça affecte beaucoup la fonction des journalistes. Les journalistes, c'est les médiateurs. Si tout le monde est apporteur d'information, qui est le médiateur? Et on ne peut pas prétendre que tout le monde est médiateur. Être médiateur ne veut pas dire apporter une information, dire une chose. C'est plus compliqué que ça.
Et il faut ralentir le rythme.
Alors, il y a une banalisation manifeste de l'information, et ça c'est un problème.
Et ralentir le rythme avec une émission comme la nôtre, par exemple, qui essaie chaque semaine de faire un point sur l'actualité, retenir une poignée d'eau, comme disait Françoise Giroud.
Prendre un peu la perspective, prendre un peu la distance, non? Parce qu'en plus, je trouve que cette hystérisation de l'information conduit à une sorte de footballisation de l'information politique, spécialement.
Footballisation,
oui,
c'est-à-dire.
Oui, toute l'information politique devient chaque jour plus un combat, non?
Un match
de football, non? C'est pas par hasard que les conducteurs du programme d'information les plus écoutés de la radio catalane, est un ancien commentateur de football qui faisait qui était reconnu pour faire la retransmission du match Madrid-Barça.
Donc il retransmet les élections avec le même
entrant. Il fait la politique comme si c'était un Madrid-Barça. Et je ne crois pas que ça soit les bons chemins pour la reconstruction de la politique dans un moment où il est assez dégradé. Non?
Et vous arrivez, Joseph, à Ramoneda, à prendre suffisamment de recul, parce que je rappelle que vous êtes à la fois, on a commencé l'émission avec ça, journaliste et philosophe.
On essaye, mais c'est difficile, non? C'est pour ça que je réivindique toujours le retour de la tradition des humanités, non? Sans la culture humanistique, ce monde qui va... On va perdre littéralement le monde de devis, non? Oui. Il va nous échapper sans avoir les points de repère, les points de distance, les points de référence pour le regarder avec une certaine calme, non?
On parlait de football et on va terminer avec ça. Comment va le Barça?
Moi je suis un catalan bizarre parce
que vous êtes le seul catalan de pas vous intéresser au football.
Je m'intéresse au football mais je suis de l'Espagnol et du Real Madrid. C'est un catalan bizarre. Oui, c'est une chose, c'est une contradiction.
Vous êtes un catalan qui supporte le Real Madrid.
C'est une contradiction qu'on peut pas expliquer raisonnablement avec des critères de rationalité. Ça fait aussi partie des sentiments et des émotions.
Merci Josep Ramoneda d'être venu commenter l'actualité à l'occasion de cette émission spéciale d'une semaine d'actualité que nous avons proposé de Sciences Po à Lyon dans le cadre du festival Mode d'Emploi. Donc, merci à l'équipe organisatrice de ce festival, Guy Walter, Cédric Duroux, Laurent Dutruel et Jean-Philippe Geoffrey pour la technique. Merci d'y avoir assisté à vous dans cet amphithéâtre. Une semaine d'actualité, prise de son Olivier Roux, réalisation Vanessa Rovensky. Demain, retour à Lyon pour le magazine Idée. Nous vous proposerons une rencontre avec la philosophe américaine Avita Ronell qui a participé au festival. Une personnalité exceptionnelle pour un travail qui ne l'est pas moins, Avita Ronell qui a travaillé avec Jacques Derrida. Nous l'avons rencontré demain dimanche donc à 17h10, heure de Paris, sur RFI bien sûr, et dimanche prochain nous écouterons une autre invitée de ce festival, Karen Barquet, spécialiste des empires, de l'empire ottoman notamment. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.